Ծեր ու մանուկներ, աղկոտոր վեցան, կամ էլ աշխարով եղան սիրության։ Ծեր ու մանուկներ, աղկոտոր վեցան, կամ էլ աշխարով եղան սիրության։ Կամիները կամ
Je suis très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Et oui, vous entendez ma voix d'abord parce qu'il n'y a pas Richard. Mais je pense qu'il sera là avant la fin de l'émission. Voilà, donc comme vous le savez, je suis un patron très gentil. Donc je laisse les autres des fois faire ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, c'est la bonne humeur. Voilà, tant que les choses se passent très très bien, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc je vous laisse tout simplement qu'on commence un peu avec le clip de Hamdi Mustapha Zalika. Et après, donc, on revient comme d'habitude avec nos invités du laboratoire Movida. Voilà, pour discuter un tout petit peu, et oui, des migrations. Voilà, et après, ne vous inquiétez pas, on va aller dans, bien sûr, dans le dur avec ce qui se passe au Sénégal. Hein. Vous avez vu le président de la République qui se promène. Voilà, qui se promène. Bon, je pense que vous avez plein de choses à dire sur la promenade du président de la République. L'ancienne Premier ministre aussi qui veut faire une proposition de loi, voilà, et notre Assemblée nationale qui est aussi une assemblée de défilé de mode. Hein. On a, oui, bien sûr, les femmes s'habillent d'une manière, il y a des pistolets en mode de sac, il y a du tout, voilà, voilà, une Assemblée nationale inédite. Voilà, ben écoutez, on va y revenir, donc pour le moment, avec, on reste avec Zalika. Pourquoi ça vient pas, Zalika? Ça vient.
Moy borom dindi
zalika falulahi malao moy borom dindi
zalika falulahi malao moy borom dindi
zalika falulahi malao moy borom dindi
bismillah ñongi dor di ñukkar serigne fallo and ak bay fali
zalika falulahi
lay ñongi dor di dor ci serigne fallu borom touba mirina
zalika fallu lay ni malaw moy borom ñindi
ben way neena ko
galas
serigne fallu
bayu be
ben way neena ko
galas
serigne fallu
bayu be
man de tamala bëgg serigne fallu luma ci gobi gar ko
moy
serigne fallu nan ko dogo dogar te yow
Zalika falulahi ni malao moy borom nindi
amna ku ñew ci mom ne ko
galas
serigne fallu
bayu mbé
man de dama la bëgg serigne fallu luma ci gobe gar ko
moy
serigne fallu nan ko dogo dogar te yow fo tolluy lax
zalika falulahi ni malao moy borom nindi
mané muril khadiro kerecha buil geina may beug fallu
zalika fallu lay ni malao moy borom nindi
nena may senegal
lutax
lu waral
muy senegal
serigne fallu mbake nena may senegal
lutax
lu waral
muy senegal
moy do mi bamba di mbok ci mamoudo
galas
fallu capital bangi
zalika fallu lay
moy yow ci batin
julen
garab ku ko gor bu saxé won la njuruma serigne fallu sa mam ya fonduma l'islam ca bawon sa bay ñew deur ko jar ko xamal ko rewuma xana xamoni ñen fukki at
jumat
le sayyiduna muhammad am ci dunya ñu wax yu ko dox ko siru ba borom am won ko mbirma waye serigne touba waye alaaji fallilo bayu serigne ate fallu bayu serigne abo bayu serigne basirou fallu bayu cheikh abdou karim makaban serigne fallu mbake ñen fukki at la dem makka siare waw nan ndoxma
alaaji
dinañ delu ci bien sûr sur le morceau mais bëggon na len wax ni Djedia va bien voilà donc Djedia comme vous l'avez demandé notamment notre professeur depuis Paris notre économiste Momar Sokhna Diop donc Djedia mu len di nuyu yeen ñep voilà donc actuellement elle est hors de Marseille elle est hors de France mais néna mu len di nuyu bu baakha baakha ba et puis je pense bien sûr à mes chroniqueurs donc qui sont à Toulon Medoun Diène et puis surtout notre ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal Matar Ly depuis le Canada, sans oublier notre juriste de Paris, Mam Tierno Birahim Dien. Voilà, donc il y a Nyep, et puis Grand Birachoun, notre entrepreneur d'Aix-en-Provence, Ndiogou, depuis Martigues, Gilzo depuis l'Espagne, et bien sûr Poupon depuis Annemasse. Et puis aujourd'hui aussi, on a des auditeurs qui nous écoutent en direct depuis Istanbul. Bon, yen ñep ñu ngi leen di nuyu quoi. Voilà, donc gars, bon nak tay ji, comme j'ai dit, nous allons démarrer avec le laboratoire Movida. Maintenant, vous commencez à les entendre, à les connaître, même si les professeurs changent, les enseignants changent. Mais le radical est toujours là, Sophie Bava, qui est la directrice, hein, qui est le dénominateur commun. Elle est là. Et donc, du coup, Sophie, bonjour.
Bonjour Lamine, bonjour tout le monde.
Voilà, donc aujourd'hui, Sophie, quel est le thème du sujet et avec qui es-tu venue ?
Alors Lamine, tu sais que Movida, c'est surtout un laboratoire qui travaille sur les migrations intra-africaines. C'est quand même un peu notre cheval de bataille. Et puis surtout, ces questions qui nous intéressent, à savoir qu'est-ce que les migrations à l'intérieur de l'Afrique construisent comme ressources, comme nouvelle recomposition sociale, etc. Et aujourd'hui, ben, on reçoit Camille Casarini qui soutient sa thèse très bientôt et qui a travaillé sur une des routes migratoires qui est un peu méconnue, qui est celle qui va vers la Tunisie, mais il en parlera mieux que moi. Et surtout, à partir de populations arrivant d'Afrique de l'Ouest, qui, bien sûr, depuis Schengen, vous le savez, on l'a assez répété dans l'émission, les frontières se ferment et les migrants s'installent de plus en plus durablement dans les pays d'Afrique méditerranéenne.
D'accord.
Donc en direct, on part en Tunisie aujourd'hui.
D'accord. Et quelle que soit, bien sûr, donc, en tout cas, la fermeture des frontières, enfin, les frontières qu'ils essaient de fermer, personne n'arrivera, je pense, à arrêter avec ces lois, ces frontières, ces bras, ces barricades, en tout cas cette migration qui est naturelle chez l'être humain. Donc cette transition nous permet directement d'aller donner la parole à Camille Casarini. Donc Camille, comme l'a dit Sophie, vous êtes doctorant en géographie au sein du laboratoire population environnement et développement rattaché à l'IRD, mais aussi à l'université d'Aix-Marseille. Donc, tout naturellement, ma première question, grosso modo, quel est votre rôle, justement, au sein de Movida ?
Bonjour. Mon rôle en tant que membre de Movida, c'est d'animer ou d'alimenter, en tout cas, les questions qui sont communes au LMI, des questions, comme l'a dit Sophie, qui portent sur les mobilités.
Parlez sur le micro pour que les auditeurs vous entendent bien.
Donc, oui, des questions qui portent sur les mobilités intra-africaines, sur... Voilà, un apport qui est peut-être plus thématique, comme l'a dit Sophie aussi, voilà, l'existence d'une route migratoire qui relie plus spécifiquement la Côte d'Ivoire à la Tunisie, de façons de circuler aussi qui sont particulières. Et moi, je pense que voilà, mon travail porte plus sur... en tout cas, pas plus, mais voilà, il porte aussi sur l'idée qu'on peut comprendre des situations sociopolitiques particulières par... des mobilités, des migrations.
D'accord. Justement, comme votre travail, c'est surtout au niveau donc, de la Tunisie, des migrations, donc, vous l'avez dit, ivoiriennes, subsahariennes, mais quels sont les types, justement, de migrations qu'on a dans ce secteur-là ?
Alors, la Tunisie, à la différence du Maroc ou de la Libye, par exemple, n'a pas un passé de pays d'immigration. Ce n'est pas un pays qui est historiquement tourné vers l'Afrique subsaharienne, même vers l'Afrique sahélienne. C'est un fort pays d'émigration, puisqu'on a à peu près 10% de la population qui vit à l'extérieur de la Tunisie. Donc c'est un phénomène qui est assez récent. On a eu des migrations qui étaient dites élitaires, donc de hauts fonctionnaires, d'entrepreneurs pendant très longtemps. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on voit arriver de nombreux étudiants et aussi des gens qui viennent voyager, travailler, s'installer en Tunisie. Alors on a aussi effectivement cette recomposition de l'espace migratoire méditerranéen, des gens qui avant peut-être avaient des projets migratoires vers l'Europe et qui se rabattent aujourd'hui vers la Tunisie parce que c'est une destination importante pour les étudiants, mais aussi parce que c'est un pays qui offre des conditions d'insertion professionnelle intéressante pour des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de ça dans la mesure où quand même la Tunisie est à côté de la Libye ? Et la Libye, on a vu, a été désintégrée par, on va dire, Nicolas Sarkozy et les autres par leur, en tout cas, intervention et l'assassinat de Kadhafi. Donc, est-ce que c'est toujours la même immigration ?
Alors, c'est une grande partie, justement, des questions que j'ai posées dans ma thèse. C'est-à-dire qu'on parle d'immigration subsaharienne très souvent en Tunisie. Et la première question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce qu'il y a comme route derrière ces différentes migrations subsahariennes. Et un des résultats de ma thèse, c'est de montrer qu'en réalité, en Tunisie, il existe deux routes migratoires. La première route, c'est celle que vous mentionnez, c'est celle de la Libye, de personnes qui partent par la route terrestre d'Afrique subsaharienne, qui traversent le Sahara, quelque chose qui est connu aujourd'hui et qui a été étudié par plein de géographes, d'anthropologues, etc. Mais il y a aussi une autre route, qui est une route aérienne, de gens qui parlent des accords et des traités de libre circulation qui existent entre la Tunisie et certains pays d'Afrique subsaharienne, viennent s'installer en Tunisie. Et ces gens ont des profils migratoires qui sont différents de ceux qu'on peut observer en Libye. Ils n'ont pas la même expérience migratoire, ils n'ont pas les mêmes projets migratoires non plus.
Sophie, on sait qu'il y avait le camp de Choucha, il me semble, ça s'appelle comme ça, où on a rassemblé tous ces migrants. Et en allant vers la Tunisie, est-ce que ça ne crée pas une nouvelle recomposition au niveau des besoins, peut-être ?
Je pense que Camille s'est un peu exprimée là-dessus, le camp de Choucha, cette période de bouleversement politique, toute cette migration qui arrivait vers la Libye de travail, de gens qui ont été refoulés violemment, qui ont vécu dans des conditions difficiles en Libye. Effectivement, c'est une partie de la population qui arrive aussi. Et une autre partie, c'est celle qui arrive donc par ces routes plus directes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi de percevoir à quel point finalement la migration en Tunisie devient un peu une immigration de gens qui n'avaient pas l'habitude de migrer. Parce que la population ivoirienne est aussi intéressante à étudier comparée à la population sénégalaise. La Côte d'Ivoire est déjà un pays où il y a eu de multiples mobilités internes. Beaucoup de gens sont arrivés travailler en Côte d'Ivoire de pays limitrophes. Donc toute cette histoire des mobilités internes à cette sous-région. Et puis finalement, les Ivoiriens ont repris la route liée aux événements politiques, mais ça, Camille va s'exprimer là-dessus, il y a peu de temps. Donc c'est un peu une particulier, surtout qu'il y a eu cette histoire de la BAD, c'est-à-dire pendant le conflit en Côte d'Ivoire, pendant ces années-là, la Banque africaine de développement s'est installée en Tunisie. Et ça a créé un appel d'air de main-d'œuvre, c'est-à-dire que tous ces personnels qui travaillaient dans la banque ont fait venir aussi les employés. Et peu à peu, ça a créé aussi des routes et des réseaux migratoires, notamment dans le travail domestique, évidemment, l'esthétique et l'agriculture, qui est un secteur qui est aussi développé, dans lequel aussi les Tunisiens attendent beaucoup une main-d'œuvre qui arriverait de l'étranger. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Mais en tout cas, ces deux moments se sont croisés dans l'histoire. Parce que le moment de Choucha, c'était le moment où il y avait la BAD aussi. Donc, c'était des moments où, effectivement, il y avait une immigration qui était élitaire, on va dire, et de l'autre côté, une immigration clandestine de gens qui fuyaient la Libye. Tout ça s'est passé à peu près au même moment. Intéressant aussi.
Je reviens avec Camille. Donc, vous avez dit dès le départ que la Tunisie n'était pas un pays d'émigration. Donc, cela veut dire que la Tunisie n'était pas préparée.
Effectivement, c'est une bonne question. Je ne sais pas si des pays sont préparés à connaître ces situations-là. Mais effectivement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Tunisie ne se pense toujours pas comme un pays d'immigration. Elle se pense toujours comme un pays de transit pour l'immigration subsaharienne. Alors même que des gens viennent s'installer dans ce pays-là. Et donc, la Tunisie n'était pas un pays d'immigration, c'était un fort pays d'émigration. Et je pense que, aujourd'hui, on est face à un changement historique. On est peut-être au tout début, même si les routes changent et peuvent... tous les phénomènes migratoires sont réversibles par définition. Mais on est au début d'un changement en Tunisie. Et ces migrations ivoiriennes qui sont nouvelles, qui commencent à s'installer, qui commencent à s'ancrer, elles sont en train progressivement de remettre un petit peu en débat justement la manière dont un pays se pense par rapport à ses étrangers, quoi.
Ben, moi, en tout cas, dans cette émission, j'ai souvent donné la parole à des Sénégalais qui sont au Maroc, Algérie, Tunisie, etc., qui vivent là-bas. Et même en Tunisie, on me parle beaucoup d'arrestations arbitraires, on me parle beaucoup de racisme, on parle... Voilà. Donc, est-ce que c'est une réalité ou...
Ah oui, je pense que la Tunisie déroge pas à cette... règle générale, si je puis dire. Il y a énormément de racisme en Tunisie. Il y a un appareil sécuritaire qui ne produit pas structurellement de la violence envers les migrants subsahariens. Ça, c'est ce que je peux dire parce que voilà, j'y ai passé du temps et que je pense pas qu'on a une police tunisienne dont la mission est vraiment de prendre les migrants, de les arrêter et de les renvoyer. La Tunisie ne pratique pas le refoulement aux frontières. Elle l'a fait de manière...
Ben si, ils le font quand même vers l'Algérie.
Non. Alors, y a eu
quelques... Ah oui, il y en a eu. Hein. J'ai eu des témoignages en tout cas.
On peut pas dire que c'est une pratique structurelle. C'est-à-dire que l'État tunisien pratique l'enfermement et la rétention et ensuite le renvoi au pays, si la personne ou les autorités paient le billet, ce qui est très rare. Mmh. Donc la Tunisie pratique la rétention. Elle a pratiqué de manière... résiduel le refoulement sur certains cas, mais on peut pas dire que c'est une pratique structurelle. Ça renvoie aussi en fait à la place, parce que à la place qu'ont ces migrants dans la société tunisienne, la police tunisienne ne pratique pas le refoulement parce que les migrants subsahariens font tourner une énorme partie de l'économie tunisienne. Mmh. C'est des gens qui travaillent dans tous les secteurs, dans l'agriculture comme l'a dit Sophie, mmh, dans le BTP, qui occupent des petits emplois, le gardiennage, dans l'industrie, dans l'artisanat. Donc voilà, il y a aussi un intérêt économique objectif de la part des autorités tunisiennes à garder cette immigration, à ne pas la régulariser parce qu'elle est moins payée, donc elle n'a pas de droit en Tunisie, mais elle ne pratique pas comme l'Algérie des énormes refoulements par bus dans le désert, etc.
D'accord, ils les gardent, mais quand même, vous pouvez confirmer qu'il y a quand même beaucoup de maltraitance. Notamment que d'ailleurs, en Tunisie, il me semble, hein, parce que j'ai fait un peu de recherche, voilà, il n'y avait pas une loi contre des propos racistes ou contre la discrimination. Je crois que ça a été mis récemment, non ?
C'est une loi qui a été votée en 2016.
Et qui a été 2018.
Mise en application en 2018. Mmh. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Moi, j'étais en Tunisie à ce moment-là. Il faut savoir que c'est une loi qui a été poussée, enfin voilà, qui a été énormément soutenue par des associations voilà, issues de la société civile, mais qui concernait aussi la situation des Noirs tunisiens. Parce qu'il y a des personnes noires tunisiennes.
Tout à fait.
Qui sont victimes d'énormément de racisme. Et cette loi, elle passait aussi. Voilà, elle servait aussi la reconnaissance de ces populations.
C'est ce qu'on disait, c'est souvent en fait les populations immigrées ou migrantes font bouger les droits dans les pays dans lesquels ils arrivent. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on montre toujours l'aspect difficile et l'aspect criminalisant de ces migrations dans les pays, alors que beaucoup de personnes, notamment dans les milieux associatifs, dans les milieux des défenses des droits de l'homme, se servent aussi de la situation des migrants pour pousser des vrais débats au sein des sociétés, notamment celui de l'égalité des droits, celui de la lutte contre les discriminations, celui des droits des femmes aussi. Finalement, pas mal de débats sont relancés aussi, celui sur la question religieuse forcément, par rapport aux migrants chrétiens qui arrivent dans des pays musulmans, etc. Donc il y a plein d'associations qui vont se saisir aussi de ces nouvelles situations pour essayer d'enclencher un débat public. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la migration, ce qu'on le dit tout le temps dans Movida, mais ça fait bouger les choses. Il faut le voir comme un moteur de changement et pas comme quelque chose qui est évidemment difficile à vivre pour les gens qui sont sur place. Et ça, c'est eux qui trinquent le plus parce que là-dessus, le droit est terrible, les conditions de vie, les conditions de logement. Mais au fond, finalement, ces gens-là font bouger les choses. Ils font bouger les regards. Ils font un peu faire des pas de côté à pas mal de gens qui sont intéressants dans une société aussi qui est un peu post-révolutionnaire aussi, avec une société civile qui s'est bien, bien réveillée depuis 2011 aussi.
D'accord.
D'ailleurs, si je puis juste ajouter cet élément, c'est une loi qui a été fortement soutenue, qui a été poussée par les associations de lutte antiraciste qui sont... soutenue enfin, en grande partie par des personnes nord-tunisiennes, mais c'est une loi qui a aussi été soutenue par des associations de défense des droits des migrants. Donc voilà, il y a eu une convergence, si je puis dire, des luttes sur cette loi. Maintenant, sur la mise en application de cette loi, il y a encore des choses à faire, puisque une personne étant en situation irrégulière ne peut pas porter plainte. Et il y a quand même une crainte de la police. On ne se rend pas comme ça dans un poste de police tunisien dénoncer une situation de racisme. Donc il y a encore des choses à faire. Mais voilà, c'est une loi qui a effectivement le mérite d'exister.
Tout à fait. J'en profite en tout cas pour faire un coucou à ma belle-sœur tunisienne, Imen. Eh oui, donc j'en ai dans la famille. Voilà, et puis pourquoi il n'y a pas de différence, vous l'avez dit, je crois, à l'entente de vos propos, que ce n'est pas le même type d'immigration avec les pays voisins comme l'Algérie et le Maroc. C'est quoi la différence?
Bon, je dirais que la différence, c'est que moi, le terme de subsaharien, voilà, on a ce débat partout dans les pays du Maghreb, les migrants subsahariens, les migrants africains, etc. Bon, moi, je vois pas ce que c'est un migrant européen. On se dirait qu'est-ce que c'est un migrant européen. On se dirait voilà, de quelle nationalité il est, d'où il vient, quelle est sa condition sociale, son histoire, etc.
Nous, on voit les Noirs chez les Arabes. Voilà, les Noirs sont... Ah oui, au Maghreb, non. Oui, ici, c'est Radio Galère, on dit les choses, il n'y a pas le diplomatiquement correct. Hein.
Justement, ma démarche scientifique, elle a été de dire d'abord qui sont ces personnes, d'où elles viennent. Mmh. Et c'est justement en procédant à cette histoire, entre guillemets, de ces personnes que j'ai montré, en tout cas, que c'était des personnes qui étaient ivoiriennes, majoritairement ivoiriennes, issues de couches sociales particulières en Côte d'Ivoire, des gens qui ne migraient pas avant. Très majoritairement, ce sont des primo-migrants.
Bien sûr.
C'est quand même une différence par rapport, je pense, à voilà, plusieurs pays du Sahel, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais, qui ont des histoires migratoires, qui ont un rapport à la mobilité qui est dense, qui est important, ce qui n'est pas le cas de ces migrants ivoiriens. Donc, la manière, qui on est va aussi jouer sur la manière dont on pratique la migration.
Bien sûr.
Donc, c'est pour dire que cette immigration ivoirienne en Tunisie, elle est particulière parce qu'elle est composée de personnes qui ne pratiquaient pas la migration avant. Mmh. Ce sont des primo-migrants. Donc, leur manière d'être, leur manière de faire espace, entre guillemets, en Tunisie, elle est dépendante de cette histoire-là. Et elle est différente de l'Algérie, du Maroc et de la Libye, qui sont trois pays possédant des routes migratoires différentes, avec des gens qui pratiquent la mobilité de manière différente, plutôt sahéliens, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie.
Tout à fait. C'est vrai que quand on est au Sénégal, par exemple, on entend plus parler des migrants qui vont vers le Maroc, l'Algérie, plutôt que la Tunisie. Et d'ailleurs, j'ai été invité par l'État algérien pour aller un peu regarder ce qui s'est passé à Tindouf, voilà, il y a quelques années. Voilà, et je rencontrais beaucoup de subsahariens, comme vous ne voulez pas les appeler comme ça, mais je vous le dis, voilà, et qui nous disaient, ils n'étaient pas du tout intéressés par la Tunisie, et quand même, la Tunisie est quand même un pays extrêmement, on va dire, développé au Maghreb. Et justement, l'État tunisien, est-ce qu'il pense quand même à quand même les régulariser?
C'est tout le débat en Tunisie, c'est une des questions voilà, que moi j'ai essayé de pousser à ma
modeste à votre niveau.
C'est effectivement de dire... Premièrement, voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'était de dire ces personnes qui viennent en Tunisie, qui sont ivoiriennes très majoritairement, elles ne viennent pas forcément pour partir vers l'Europe déjà.
D'accord.
Premier élément.
Donc ce n'est plus un pays de transit.
Ce n'est pas un pays de transit.
Pas que.
Pas seulement. Et justement, cette idée du transit, elle entretient un cercle vicieux, puisqu'on dit que c'est un pays de transit, donc les personnes qui sont là ne veulent pas rester en Tunisie, donc ça ne sert à rien de les régulariser, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai essayé de montrer dans mon travail que justement, c'est des personnes qui viennent s'installer, qui ont des projets migratoires entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, qui essaient de pratiquer la circulation entre les deux pays, qui essaient de revenir, d'aller, qui montent des projets entrepreneuriaux, micro-entrepreneuriaux, et que de ce point de vue-là, les garder en situation irrégulière sous prétexte que, de toute manière, la Tunisie ne les intéresse pas, ça ne participait pas ni du développement de la Tunisie, ni du respect, en fait, aussi des droits des personnes, tout simplement.
D'accord. Je rappelle à nos éditeurs que nous sommes avec le laboratoire Movida, avec Sophie Bava et avec Camille Cassarini. Et si vous avez envie de poser une question ou de participer, il nous reste encore quelques minutes, c'est le 04 91 08 28 10. Sophie, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à tout ça?
Un petit peu. Je dirais que ça ressemble à la situation Sénégal-Maroc, un petit peu ces allers-retours, hein, ce que tu soulignais aussi entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, c'est un peu les relations Sénégal-Maroc, sauf que les relations Sénégal-Maroc sont ancrées historiquement depuis... depuis des siècles religieusement, tout etc. Et avec la Tunisie, c'est assez nouveau. Et puis, ce qui est intéressant, ce que dit pas Camille ou ce qu'il dit à demi-mot aussi, c'est que ce sont des gens qui migrent, qui sont déclassés. C'est souvent des gens qui appartenaient à des familles dans... comment dire, des familles qui étaient socio-économiquement plutôt bien placées avant le changement de régime en Côte d'Ivoire, et du coup qui ont pris la route aussi, hein, donc il y a une forme de déclassement. De fait, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'habitude migratoire aussi. Alors que c'est vrai que ce que tu disais par rapport au Sénégal, de partout, même dans les familles de toutes les couche sociale, il y a cette habitude de circuler, de bouger, etc. Ce qu'il y avait beaucoup moins dans cette population ivoirienne sur laquelle il a travaillé aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'à partir de l'Europe, on a toujours ce regard aussi d'une immigration qui se ressemble, et d'une immigration qui se ressemblerait, qui serait tout pareil, pas seulement... parce que on n'a pas de parce que les médias ne nous renvoient pas une image aussi de la diversité qu'il peut y avoir du côté de l'Afrique. C'est toujours pareil, l'Afrique c'est toujours un, c'est toujours une, on voit pas les diversités, etc. Mais aussi parce que derrière il y a une politique migratoire, il y a l'OIM et il y a toutes les Nations Unies derrière aussi qui mettent en place des projets sur lesquels on essaye de faire à peu près la même chose sur tous ces pays là et la Tunisie après la révolution c'est devenu un peu le supermarché de tous les le projet, une espèce de lieu où vont se centraliser une tonne de financements pour développer les droits humains, la lutte contre les discriminations, etc. Donc il y a énormément aussi d'ONG qui se sont installées en Tunisie. C'est un marché, on l'a dit, hein, l'humanitaire, les droits de l'homme, la migration, c'est aussi rentré aujourd'hui dans une logique de marché. Et effectivement, ces droits aussi que les gens vont défendre ne sont pas tous les mêmes suivant les pays et suivant les contextes. Donc c'est ce qui est intéressant dans Movida, c'est de voir tous ces travaux qui sont menés par des étudiants et puis par les chercheurs et Camille a fait quasiment toute sa thèse dans Movida en permettant de faire pas mal de terrain en Tunisie mais aussi en Côte d'Ivoire. Mmh. L'intérêt c'est de toujours garder ce lien dans les pays pour essayer de comprendre parce que sinon on verrait que ce qui se passe en disant les Ivoiriens ils sont comme ça en Tunisie mais en fait il faut aller voir quand même comment ça se passe dans le pays pour comprendre un peu ces histoires de classe etc. Et ça permet de voir. Donc il n'y a pas uniformité bien entendu, il n'y a pas uniformité non plus des contextes politiques, hein. Alors Tunisie, Maroc, Algérie évidemment et Libye, alors on est dans quatre contextes politiques différents, totalement différents, mais par contre il y a une espèce de conformité des politiques migratoires où les Nations Unies et l'Europe vont essayer d'appliquer une façon de penser, une façon de voir les migrations, c'est-à-dire globalement les bloquer, renvoyer les gens chez eux. Donc,
d'accord. Voilà. Ben, il faut rappeler quand même aussi que le printemps arabe est parti donc de la Tunisie. Voilà, donc cela veut dire que la Tunisie a elle-même des problèmes d'emploi, des problèmes en tout cas économiques. Est-ce que dans ce contexte-là, la migration pourrait encore avoir de beaux jours là-bas?
Je dirais que de par les emplois qu'occupent les personnes subsahariennes ou africaines ou ivoiriennes en Tunisie, cette question ne s'est jamais vraiment posée, puisqu'en fait la Tunisie produit des emplois. Le problème de l'emploi en Tunisie, pour la faire très très courte, c'est que la Tunisie produit des gens diplômés, les insère sous le marché du travail, mais ce marché du travail n'absorbe pas les personnes diplômées.
D'accord.
C'est-à-dire que la majorité des emplois qui sont produits en Tunisie sont des emplois peu qualifiés. Et des personnes qui ont fait Bac plus 3, Bac plus 5 n'ont pas envie d'aller travailler dans des petits emplois ou des emplois peu qualifiés. Donc la question du chômage en Tunisie, elle est aussi celle-là. Mais quand on vient de Côte d'Ivoire et qu'on peut avoir, par le jeu des monnaies, des différentiels, etc., on peut avoir un emploi qui est payé parfois une fois et demie, voire deux fois plus que ce qu'on gagnerait en Côte d'Ivoire dans un bon emploi. En fait, la question de l'emploi, elle se pose pas vraiment, en fait.
Et puis, il y a un truc très important. C'est comme entre le Maroc et le Sénégal, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Tunisiens qui vont travailler en Côte d'Ivoire. En fait, il y a des liens qui se créent. La migration, ça crée des liens, ça crée des circuits économiques aussi. Donc, inversement, peut-être que la Tunisie va peut-être aussi se tourner un peu plus vers l'Afrique, comme le Maroc s'est tourné aussi un petit peu plus vers l'Afrique en rejoignant l'Union africaine, mais en développant des projets économiques aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut se retourner aussi chaque fois et voir que la migration, elle crée aussi un développement économique qui peut être intéressant en intra-africain.
Vous êtes en train de me dire que la migration quand même, malgré tout, est très positif
mais
pour
toujours.
Nos pays.
Bien sûr, enfin, en Tunisie, je ne peux pas participer au discours selon lequel voilà, l'immigration subsaharienne, les Ivoiriens sont des criminels, tout ça, c'est pas vrai.
Enfin,
c'est complètement faux. C'est des gens qui participent de l'économie tunisienne, qui participent à la société tunisienne, qui y sont présents. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'ils sont en Tunisie, la question est de savoir comment ils sont en Tunisie.
D'accord.
Et c'est quand même très différent, quoi. Mais juste pour rajouter un point par rapport à ce que disait Sophie, l'exemple marocain, qu'est-ce qu'il nous dit finalement ? Il nous dit que un État qui va, entre guillemets, faire un petit peu l'économie de sa géographie, va pouvoir utiliser la variable migratoire, entre guillemets, comme aussi un outil de repositionnement géopolitique. Et c'est ce que le Maroc a fait. Alors, sur la question des régularisations, etc., il y a à dire, je ne sais pas moi exactement, je ne travaille pas là-dessus, mais la Tunisie n'a pas fait choix. Voilà, objectivement, la Tunisie ne reste tournée vers l'Union européenne, c'est son principal partenaire. Elle n'essaie pas réellement de développer des liens avec les pays d'Afrique subsaharienne, si ce n'est sur quelques marchés. Donc voilà, je pense que les choses changeront le jour où la Tunisie se dira, je suis effectivement entre l'Europe et l'Afrique, mais je ne peux pas être tourné que vers l'Europe. Il faut aussi que je me tourne vers mon ancrage continental, quoi.
D'accord. Et je pense que le Maroc est là pour lui montrer la voie, parce que le Maroc, en acceptant les Sénégalais, aussi de notre côté, a englouti l'économie sénégalaise
carrément.
Dans bien des plans. Ça, je le dis.
Carrément.
Voilà. Aujourd'hui, il n'y a que les Marocains au Sénégal. Voilà. Bon, mais écoutez, on est arrivé à la fin de notre interview. Juste, voilà, peut-être une avant-dernière question, parce que j'ai une question pour Noémie, mais ce sera... Après, on va laisser donc Sophie ou Camille. Je ne dis pas que vos travaux ne servent à rien, loin de là. Pas alors là.
Attention.
Loin de là. Mais quand même, quels sont les résultats de vos recherches à un moment donné du laboratoire ? Qu'est-ce que ça nous apporte pour nous les migrants ? Quels sont les fruits ?
Déjà, pas mal de connaissances, alors qu'il se dit un peu n'importe quoi sur la question. Donc, notre laboratoire, c'est aussi la connaissance. On fait la formation aussi par rapport aux journalistes, aux parlementaires. On fait des petits formats, des choses qui sont accessibles. On ne va pas demander à tout le monde de lire des thèses, des livres et des articles aussi. Donc, tout ce qu'on fait... Tout ce qu'on digère en termes de recherche, on peut le proposer de manière digérée et condensée aussi sur le blog Hypothèse de Movida et aussi pas mal d'actions aussi.
Mais justement, qu'est-ce que vous dites aux Africains ? Parce que bon, voilà, je vois que tu voyages dans tous les pays africains. Voilà, qu'est-ce que tu leur dis quand tu es là-bas ?
Alors moi, j'ai pas, en tant que telle, je suis engagée. Après, là-dessus, j'ai pas un rôle politique, si tu veux, à part dans ma commune, peut-être, mais ça c'est encore autre chose.
Ouais.
Mais, et puis alors, sur l'immigration, j'ai encore du travail dans ma commune. Mais globalement, quand je suis là-bas, j'ai pas à me substituer aux gens qui font de la politique dans leur pays. Mais par contre, on travaille ensemble à produire de la connaissance et à se servir de cette connaissance pour essayer de faire avancer, effectivement, le droit des migrants, les droits de l'homme, etc. Et surtout d'avoir une connaissance aussi et de renverser ce curseur, de toujours d'essayer de faire changer, de faire bouger le curseur, de décaler un peu le regard pour qu'on voit la migration aussi dans ce qu'elle a de bon et de bien et ce qu'elle a toujours été, en fait. Et ça, c'est des paroles qu'on essaye de dire un petit peu le plus possible, hein, sinon on ne serait pas venu envahir ta radio aussi pour continuer.
Non,
à
pas
à
d'envahissement
dire,
ici. Hein.
Ouais,
ici, la migration est la bienvenue.
Ouais, voilà.
Je suis d'accord, je pense que l'idée, c'est de dire... Il existe un contre-discours au discours international sur l'immigration, au discours qui criminalise l'immigration. Il y a un contre-discours qui est basé scientifiquement, qui se base sur des travaux de recherche qui sont menés sur des terrains au plus près de ce qui fait le quotidien, je dirais, des migrations. Et donc, voilà, l'idée, c'est de soutenir un contre-discours dans les pays dans lesquels on travaille. Moi, en Côte d'Ivoire, j'essaye. En Tunisie, j'ai essayé. Je continue à le faire. Et voilà en quoi on peut nourrir aussi des sphères militantes avec nos travaux, avec toutes ces approches-là, quoi.
Ben, vous avez compris que c'était une question provocatrice et qui fait que justement c'est pour cela que je vous invite à la radio pour justement tordre le cou à toutes ces idées d'un certain monsieur Zemmour ou Le Pen ou des choses comme ça qui racontent beaucoup de conneries. D'ailleurs, il dit que tous les trafiquants de crack, c'est des Sénégalais à Paris. C'est faux, c'est archi faux.
Voilà.
Mais bon, vous les Sénégalais aussi, arrêtez. Hein. Voilà. Bon, Noémie, donc toi, tu nous viens de Bordeaux, c'est ça ? Voilà.
Oui, tout à fait, bonjour.
Et j'ai cru comprendre que tu fais aussi un peu de la radio, tout ça. Voilà, donc, quels sont vos sentiments par rapport, d'abord, à notre galère ici, Radio Galère, par rapport à tout ce que vous entendez, et quelles sont vos impressions?
Merci beaucoup donc pour l'accueil. Merci à Sophie de m'avoir invitée. Je suis ravie de voir comment se déroule cette émission. Je trouve ça très, très intéressant, passionnant d'écouter les résultats de recherche de Camille. Donc c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, en effet, moi j'anime avec des amis doctorants, chercheurs aussi, une émission de radio, petite radio étudiante vers Poitiers, qui parle de migration. Et je fais partie aussi du laboratoire Mobida, dans lequel je suis depuis peu de temps, donc je n'ai pas encore trop fait des actions avec les membres, mais l'idée, c'est de participer activement à justement la déconstruction de ces idées reçues un petit peu.
Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir donc, que vous soyez là. Ça me fait plaisir en tout cas de vous accueillir en tout cas tous les mois. Et sachez que nous allons continuer à travailler et à tordre toutes ces idées reçues. Oui, Sophie.
Alors, décembre, fin novembre, début décembre, si tu veux venir avec nous à Agadir, on fait une école doctorale, une école de recherche sur les liens justement entre la recherche et la recherche-action et le militantisme. Bon. Donc, si tu veux venir du 28 au novembre au 3 décembre.
Voilà. Bon, ben écoute, j'ai entendu, donc c'est lancé en direct, donc je suis coincé. Bon, on va en discuter, mais hors antenne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et puis, je vous dis tout simplement bonne continuation. Et puis maintenant, donc, nous allons se charcler sur la politique du Sénégal. Les gars, vous êtes attendus. Allez. Venez, on vous attend maintenant. Baba Mal.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Baba jurum dero Yingna be koy jurmi nima andai san surare besgo ender dunya Yum
man fatu, you man mama, elai mal. You man chilo and they car and they guy. Ah, come here, met my baba, baby, baba, dear boy. Ah, nanny. I dahar, son or sir, emar sir, ah, I said that some boo boo yatin. Yeah, hey, hey, ay, ne. Bayo, bayo,
bayo,
bayo, bayo, bayo, bayo.
Voilà, 04 91 028 10. Donc après le laboratoire Movida, donc nous allons parler un tout petit peu de l'actualité sénégalaise. Mais en attendant, je vous laisse avec Baba Mal, le temps d'aller voir Matarli depuis le Canada.
Yeah, yeah, yeah. Bayo, bayo,
bayo,
bayo, bayo,
bayo.
Nene yo, nene yo, nene yo, nene, nene yo, be. Baba yo, baba yo, baba yo, baba, baba yo, be.
Merci beaucoup Baba Mal. Donc maintenant on va aller donc aux États-Unis pour retrouver Matarli. Est-ce qu'il est là, Matarli? Allô?
Lamine, je suis là, mais je suis plus aux États-Unis, je suis au
Canada.
Canada.
Oui, j'ai oublié. Eh bien, ma foi, tu es un international de basket. Tu as été en France, aux États-Unis, maintenant au Canada. Il faut que tu t'arrêtes un peu, hein? Bon, ouais, alors, et au Canada, il fait froid, il fait chaud, il fait quoi là-bas?
Non, non, il fait correct. C'est correct là. On est à peu près vers les 5 degrés le matin, c'est correct. On
5 est, degrés. Bien. 5 degrés, c'est correct.
On est bien.
On est bien. Bon.
On est bien là.
Bon, ben ça va.
On sait ce qui nous attend.
Bon, ben ça va. Alors, donc, vous allez vous y préparer. Mais justement, Matarli, aujourd'hui, on a vu notre président de la République qui était en train de se promener au Sénégal. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est proche de la population. Il essaie de savoir ce qui se passe. Il règle leurs problèmes. Il leur achète des ordonnances. Mais j'ai comme l'impression que les Sénégalais ne sont pas contents. Quoi que le président fasse, vous n'êtes pas contents.
J'aurais bien aimé que le président me recrute comme étant membre de son théâtre. Comme ça.
Non, mais attention aux mots que tu utilises. Le président, il ne fait pas de théâtre. Il était en train de se promener. Attention là. Je ne veux pas qu'on aille en prison.
Lamine, écoute-moi bien. Hein? Je vais sortir un peu du français. Je vais parler. Voilà, parce que Sophie, moi, je ne parle pas bien le français, je parle l'anglais, ok?
Ah, Sophie, okay. Sophie Diagne Sophie. Qui nous écoute depuis Bordeaux.
Dis-lui que je lui passe le bonjour et que le certificat médical de Ousmane Sonko, je pense que le docteur avait dit quelque chose là.
T'es malade.
Hey, Lamine, entre parenthèses, comment se fait-il que le certificat médical de Californie dit qu'elle n'a pas violé? On est d'accord, tout le monde est d'accord. Bon, le certificat médical d'Ousmane Sonko dit qu'elle n'a pas violé. Il faut qu'il aille en justice pour se justifier. Bon, bref.
Bah écoute, l'affaire est en justice, on attendra la justice tranchée.
Oh, Lamine, au Sénégal, il n'y a pas de justice, je suis désolé. Bon, anyway, écoute-moi. Lamine, ok. Le président de la République, comment se fait-il qu'il veut s'approcher de la population? Le jour du Gambo, tout le monde est hors Dakar. Le gars qui l'a accueilli, c'est son ami de l'APR. c'est un ami de Rasil Talla. Rasil Talla, c'est le directeur de la radio ou bien de la télévision RTS, right?
Oui.
OK? Mais Lamine, le président de la République, il veut se rapprocher du peuple. Mais Lamine, yo, en face de chez toi, Colobar, il n'a qu'à aller là-bas.
Pourquoi? Tu veux dire qu'on est pauvres, nous?
Non, 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 c'est pas ça. C'est que c'est juste pour voir les gens. Là-bas, il y a toujours du monde. Là où il est parti, il y avait le gamou, tout, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait que les joueurs de théâtre qui étaient là-bas. Donc, mais moi, si on m'avait recruté, j'allais venir et faire la même chose. Et il lui a dit que le, comment dirais-je, le troisième mandat, c'était une demande quoi, populaire.
Ouais, mais bon, ça, on dirait que c'est une mascarade quand même.
Elle a vu. Non, sérieusement. Sérieusement, le Sénégal n'ira jamais nulle part, je te le jure. Lamine, le président là, il fait... C'est qui le chargé de communication du président Macky Sall? Parce qu'il fait des erreurs exponentielles.
Mais peut-être il ne les écoute pas.
On prend la tête. Lamine, Massa Alikoul Dina, c'est à côté. Il dit au président d'aller là-bas. Faire la prière sans garde du corps et nous rien. C'est simple comme bonjour. Mmh. On saura si le président est populaire ou pas. Un vendredi, il descend là-bas vers Colabane et il va marcher tranquillement. Il va aller à Massa Alikoul Dina faire la prière de vendredi tranquillement et on verra s'il est populaire ou pas.
Bah.
Sans programmation ni rien, naturel, comme il l'a fait.
Ça va alors. Lamine, ouais.
Non, sérieusement, Lamine, une dernière chose. Mmh. Mais Lamine, wallahi, le Sénégal, man, j'ai pitié du Sénégal.
Pourquoi?
Lamine, Kouramaki, elle est députée à l'Assemblée nationale.
Oui, la nouvelle députée.
Non, Lamine, je ne vais plus parler. Je demande seulement si Kouramaki,
elle est députable.
Comment dirais-je, députée? Elle est députée à l'Assemblée nationale? Elle est députée ou pas?
Et bien sûr, elle est députée.
Ok, qui est Kouramaki Lamine, d'après toi?
Ben, je sais que c'était une femme insulteur ou insultrice, je ne sais pas comment on dit, depuis les États-Unis, non?
Exactement. Hey, Lamine, une grande insulte, je ne sais pas, insultatrice, l'inquiète, je ne sais pas, je ne sais pas, de conneries. François, ta copine. Et bien, Lamine, d'où inviter François, lui, je sais, Averro, son copine.
Non, non, moi maintenant, quand les affaires sont pendantes à la justice, j'invite plus personne.
Mais, Lamine, il n'y a pas de justice à ça. Il n'y a rien, man. Lamine, ils n'ont qu'à arrêter le cinéma, là. Hey, ils n'ont qu'à arrêter le cinéma. Sérieusement, man, ça me prend la tête de voir certaines choses. Au Sénégal. Mais Lamine, je peux poser encore une autre question. Kouramaki, elle est réellement députée à l'Assemblée nationale?
Ah oui, elle est réellement députée.
Députée de PASTEF ou bien de
Non, mais arrêtez conneries. Députée du président Macky Sall.
Ah, ok. Donc, c'est le président qui l'a fait venir des États-Unis. Bon, d'accord, ça a fait aux États-Unis. Vous dites le côté que tu côté. Californie, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de limou président. Donc, maintenant, tous les insulteurs sont du côté du président.
Ben,
c'est comme
écoute.
Ça qu'on va diriger le Sénégal.
Bon. Enfin,
c'est... Et Lamine, il paraît qu'il a amené un sac avec un pistolet à l'Assemblée nationale.
Non. C'était un sac, je l'ai vu, en forme de pistolet. Mm-hmm. C'est différent. Un sac en forme de pistolet.
Mais Lamine, OK. S'il a amené un sac, tu vas une métaphore, je vais arrêter. Elle, quand on les invitait dans les radios ou les télévisions, elle disait que toujours qu'elle avait un pistolet dans son sac. Et comme par hasard, elle vient à l'Assemblée nationale avec un sac de pistolet. Le métaphore, Bob, qu'est-ce que ça représente?
Bah, je pense que tout simplement, qu'on a une assemblée inédite. Mais quand je dis inédite, c'est inédite dans toute l'acceptation du mot. Parce qu'il n'y a pas de majorité donc présidentielle, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de défilés de mode à l'Assemblée nationale. Il y a des colibés donc de tous les côtés, donc l'autre qui arrache le micro, l'autre qui monte sur les tables, les gens qui s'insultent.
Il ne faut pas juste rengainer ces trucs-là.
Mais
Lamine, s'il te plaît, d'accord.
J'arrête.
Je te dis, arrête, ok. Comme pourquoi le Sénégal ne marche pas? Pourquoi ils ont fait ça?
Non, mais moi je ne rentre pas dans le fond. Je suis en train de parler de la forme. Mais comme j'ai dit, j'espère que les choses... Mais laisse-moi finir. J'espère que les choses vont s'arrêter à la forme et qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, comme je disais hier à un de mes grands, d'ailleurs m'en connu, grand Fadoulo, voilà, à un moment donné, c'est bon, le folklore, on arrête. Les défilés de mode, on arrête. Un sac en forme de pistolet, on arrête. Monter sur les tables, on arrête. Maintenant, le peuple sénégalais a besoin de choses, a besoin de fortes propositions de loi. Le peuple sénégalais a besoin que l'on regarde les résultats du gouvernement, qu'on aille au fond des choses. Maintenant, c'est bon. Toute chose a une fin. On a fini avec le folklore. Maintenant, il faut travailler pour les 14 mois qui restent. Pour 14 mois qui restent au président, je voulais dire. Voilà, pour essayer de voir comment ce pays-là peut être mis sur les rails. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui.
Mais Lamine, s'il te plaît, le président, il ne reste pas 14 mois.
Ah bon?
Non. D'après le théâtre qu'il a joué là, le Dalla lui a dit le troisième mandat, c'est une demande.
Non mais Matar, il faut arrêter ça. Il va nous retrouver sur sa route, que ça soit au Sénégal, les gens vont sortir. Le consulat là, nous savons, on va les envahir, tous ces consulats, les ambassades. On ne laissera pas le président de la République, Macky Sall, nous forcer son troisième mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais devront aller au-delà du président de la République. Que tous ces énergumènes là qui le poussent à aller faire un troisième mandat pour mettre ce pays à feu et à sang, ces gens-là, ils ne devraient pas rester indemnes.
Non, sérieusement, Lamine, ce que tu as dit là, je suis parfaitement d'accord. Là, tu as parlé objectivement. Je sais que l'objectivité objective n'existe pas, mais là, tu as été vraiment objectif pour une fois. Tu n'as jamais été objectif, mais pour une fois, tu as été objectif.
Bon, là, ce sera le mot de ta fin, le mot de la fin pour toi. Djadjo Sawara. Ciao. Ciao. Sacré bâtard, lui. Voilà, donc écoute, merci beaucoup, Matar. Mais je vais rester toujours sur le dohonto du président de la République. Voilà. C'est vrai que je taquinais en disant que à Matar Lee que Warnadem Founek Akudenon. Mais à un moment donné, il faudrait que le président de la République vraiment arrête cette communication à n'en plus finir. Pour les 14 mois qui lui restent, il a le temps vraiment de sortir grandi. Parce que Teidji, force est de reconnaître que sa promenade a été un flop total. Un flop total le dimanche passé. Voilà. C'était une mise en scène totalement ubuesque. Et puis, le président de la République, il doit être tout simplement un modèle d'exemplarité. Un pays comme le Sénégal, qui enregistre plus de 4000 accidents par an. 4000 accidents par an. Et près de 745, voire 750 décès. Mais ne doit pas voir son président de la République conduire sans une ceinture de sécurité. Ça, vraiment, c'est des choses que le président de la République a fait. Sa ceinture de sécurité. Et le nombre de décès, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, c'est tout simplement le service au Sénégal qui s'occupe de la prévention routière. Et se promener sur la VDN un dimanche matin, comme l'a dit Matar Lee, au lendemain du Gamou, c'est vraiment nullissime. Si le président, il veut faire effet, si le président, il veut vraiment... Moi, je ne pense pas que c'est juste pour regarder sa popularité. Mais s'il veut tout simplement jouer son rôle de président de la République, je pense qu'il devrait descendre, comme l'a dit Matar Lee, pourquoi pas à Colobane, pourquoi pas à Guédiawaye, pourquoi pas à Parcelle Assigny, pourquoi pas à Rebus, Grand Moïse Nunglay Nui, yo minek Rebus. Voilà. Ouais, mais, bonjour Richard. Voilà. Grand Moïse Nunglay Nui, yo minek Rebus. Parce que je pense que sous Macky Sall, le Dougon Rebus, il fait que la faille, yo. Dinka wax lo xamne mën na ko deg. Je te connais, je sais que tu vas lui dire des choses. Mu joge Rebus, wacc duggu bir ñaari tali. Duggu ñaari tali wacci auto bi day wacci ci auto bi dox marche à pied xol gaay ni ñuy dundé ni ñuy laifé xol galère gi ñu dundé. Et là, monsieur le président, là vous verrez que les Sénégalais, la plupart, vivent dans des galères indescriptibles pour se nourrir, dans des galères indescriptibles pour habiter dans des logements dignes de ce nom. Oui, monsieur le président de la République. J'ai même entendu que certains dire que vous devriez aller dans les hôpitaux. Certes, Je suis d'accord. Hein. Mais moi, je lui conseillerais de commencer par les centres de santé de proximité. Parce que tu as l'hôpital principal, quand même, on a une affaire, tout. Hôpital de Dantec, on a une affaire. Aïe, Dalal Djam. Mais quand, monsieur le président, vous rentrez dans les centres de santé de proximité, vous verrez qu'il n'y a absolument rien pour prodiguer les premiers soins. Et la moindre consultation te coûte la peau des fesses. Sans oublier les deals entre tout simplement beaucoup d'infirmiers, de médecins, des pharmaciens, etc. etc. Ah oui, gars, il y a des femmes au Sénégal. Demain, on a une affaire de filles. On sait que c'est Lamine qui t'a envoyé. Lamine a pris un risque. Mais ce sont des réalités du pays. Ce pays-là est à construire de A à Z. Peut-être Macky Sall a fait A à prime. Oui. Il y a des choses à faire dans ce pays-là. Mais Richard, je pense que j'ai entendu le téléphone sonner. Donc, on va à l'antenne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Lamine, c'est Sophie.
Oui, Sophie, Nakamo.
Ça va bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Bonjour Richard.
Bonjour.
Lamine, bonjour à Matar aussi, je lui fais un coucou. Voilà. Et puis, tu as parfaitement raison, si Dan et Lémy, pour niveau santé, Sénégal, il y a beaucoup à faire. Et puis, moi, j'ai toujours dit que le président Macky Sall n'a pas assez communiqué avec son peuple. Moi, je crois que c'est ce qui lui manque. Il est tout le temps en train de voyager, on le voit partout communiquer, mais il ne communique pas, il n'est pas vraiment proche de son peuple.
Et peut-être il communique, mais il communique mal, peut-être, non?
Il communique peut-être mal, oui, comme tu as dit. Mais bon, même si c'est une mise en scène, c'est déjà pas mal. Mais bon, il faut que nous nous trouvions à Dougoubir Castor. Moi, je suis de Castor. Dougoubir Koloban, comme Nico Matar, Dougoufenen, Kolofenek. Peut-être Bagna aussi, parce que Foubari Nitrek, il faut qu'il communique plus. Le problème au troisième mandat, Lamine, moi, je crois qu'il ne faut pas créer de faux débats. Moi, je suis Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Donc,
est-ce qu'on doit attendre?
Mais comme Nina Wahni, si vous voulez mes forces troisième mandat, là, les gens vont se révolter parce que moi, je crois que Macky Sall lui-même, il en a marre. Moi, je crois qu'il devrait juste partir tranquillement. Parce que l'oumfimoun te yokat, binko gis.
Ah, ça c'est vrai. Alors là, je suis entièrement d'accord.
Voilà, parce que Instabin, les gens en ont tellement marre que même je crois que lui-même, il en a marre. Donc, troisième mandat, ce sera encore plus long, ça va créer encore d'autres conflits. Et en tant que Ngit, Dafawara, prenez pour la paix dans son pays. Mais par la grande porte. Comme ça, en ce moment-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pour forcer l'homme, tout le monde ne le fait pas. Donc, comme on a voté une loi, on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutif, eh bien, on va le laisser successif, le New York, je ne sais plus. Wow.
Donc, il faut
voilà, c'est ça. Donc, il faut le laisser. Je crois que mon flamme, Donc, en revenant sur la santé, effectivement, il reste beaucoup à faire au Sénégal, niveau santé. Moi-même, je viens de créer une association avec des promotionnaires qui s'appelle la MDALD. Maison des affections longue durée. Suis la présidente. Okay. Donc c'est pour justement aider les malades au Sénégal. Ils en ont besoin. Surtout les pathologies lourdes comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale. T'imagines, Lamine, Sénégal, ben machine, radiothérapie, mon femme. Et cette machine est souvent en panne. Il y a des malades qui vont jusqu'en Mauritanie pour faire la radiothérapie. C'est grave. Donc notre but, c'est faire tout pour aider ces malades-là, leur apporter un soutien financier, moral et social. Parce que vous faites que dans la fête, c'est-à-dire que le sol, vous avez dit, c'est d'homme, à mon collègue, donc dans la fête. Donc nous le faisons. Mais si vous faites accompagner l'hôpital, on va le faire. Si vous faites que vous avez une famille, on va faire ça, accompagner les petits faibles, parce que barina dignité, c'est fait faute de moyens, quoi. Donc, l'eau peut-être d'une nature venir pour y aller en détail. Mais Sénégal, on a eu un peu de temps. Président, il y a des frères, comme quoi on a des Voilà,
en tout cas, nous voulons appeler vous voir chez l'association Big qui dit, voilà, et sache que tu peux toujours nous appeler pour parler justement de ton association.
De tout ce qu'on a mis en place, parce qu'on a eu le récépissé que le 3 octobre.
Bon.
Donc là, on est en train de trouver une maison, de créer un site internet. Et vraiment, après, je vais revenir pour en parler pour
Inch'Allah.
Que les gens puissent nous contacter.
Inch'Allah.
Voilà.
En tout cas, bravo Sophie. Merci beaucoup.
Merci. Voilà. Bon week-end à tous.
Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie, tes actions humaines dit, pardon, il faudrait tout simplement les vulgariser davantage et j'en profite aussi pour remercier davantage notre association parce que nous aussi Sénégalais ici au niveau de la France, Marseille, Paris, tout ça et bientôt ce sera aussi aux États-Unis. On a Diaspora Santé Sénégal, Marseille c'est le siège, Diaspora Santé Sénégal autour du docteur Martin Carvalho. Nous avons aussi fait pas mal d'actions pour des hôpitaux comme Ziguinchor, comme Lougue, voilà. Et d'ailleurs, tout dernièrement, il y a un ou deux mois, on a aussi fait de bonnes actions pour l'hôpital de Worosogi. Voilà, donc on est en train de faire des choses pour les hôpitaux de l'intérieur et l'hôpital Worosogi. Vraiment, je veux remercier Draman Kamara, voilà, qui a beaucoup œuvré pour l'acheminement du matériel qu'on a envoyé à l'hôpital de Worosogi. Voilà, que chacun essaie d'être l'humain vraiment pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai, juste une réponse par rapport à ceux qui disent que les gens critiquent, ils disent que oui, Radio Galère, vous critiquez, tout ça. Oui, mais on critique, mais on lance aussi, en tout cas, des idées et nous-mêmes, ouais, qui sommes là, Richard, on est acteurs de ce qui se passe au Sénégal parce que nous participons à notre niveau vraiment au développement de ce qu'on pourrait, en tout cas, là où on pourrait participer pour développer notre pays, c'est-à-dire le domaine de la santé avec le docteur Martin Carvalho et toute l'équipe voilà, qui travaille au sein de Diaspora Santé Sénégal. Et comme je vous ai dit, nous avons ouvert une antenne à Paris et Ousain, avant les khalats, parce que l'autre antenne, il y a créé aux États-Unis. Voilà. Donc, que tout le monde puisse continuer. Richard, tu me dis qu'il y a quelqu'un, on y va. Allô, allô.
Oui, allô, salam alaykoum.
Ah, malaykoum salam, Seigne Medoun, depuis Toulon.
Alaji Lamine, nanga def.
Nakamo.
Ça va.
Naka santé bi.
Ouais, ça va, alhamdoulillah.
Ah ben, alhamdoulillah alors. Monako, alhamdoulillah.
J'espère que toi aussi, ainsi que Richard.
Ben, ça va.
C'est une très belle initiative hein, par rapport à Sophie, ce qu'elle a dit. L'UNIDEF, c'est la noblesse même de l'immigré sénégalais. Hein.
Bien sûr.
Comme Linka Wache, c'est vrai que Linka Wache, bon, xam nga tok di juger rek dafa yomb gaay dañuy tok di critiquer mais gaay suñu xamone li gaay yi di def ci association yi li gaay yi di def ci sen ay quartier li gaay yi di def par rapport à d'autres passerelles qui ne sont pas politiques et que soxlo wuñu taxaw diko vulgariser dañ xamne que ni nous nous sommes des combattants pour le développement du Sénégal et dañu gëm ni ñu gëm quoi.
Ça c'est sûr.
Donc Lamine man dama and ci li nga wax parce que man au-delà du risque sur le risque routier qu'il y a eu hein
ouais.
Parce que quand même il y a eu mise en danger de la vie d'autrui
tout
parce que président bi bimi tawal bi mu garé ci bor bi amna auto yo xamné ñu ngi romb
bien sûr
ni wax ak yow né len nañu dem côté passager nga mëna communiquer ak ñom pour te dire que ñom yalla daf leen japp daf yalla dal dafa melni dafa téggi loxom ci ñom ma scénario buñu def rek day flop parce que on a voulu nous faire croire que le président il se promenait par hasard mais l'histoire a montré que tout était un coup monté
tout
que tout était juste une action de com bo xamné malheureusement il aurait fallu pour que ça nous douguer par l'entrée de Pékin. Pourquoi prendre la corniche un dimanche un jour de gamou où il y a personne à Dakar. Tu veux tester ta popularité, je partage énormément douma ci apesantir douma ci délouer. Mais Lamine man la question de la troisième du troisième mandat quand j'ai entendu
de la deuxième candidature de, hein?
De la deuxième voilà du troisième deuxième non troisième mandature bi comprendre voilà deuxième voilà comme nénañu nul ne peut faire plus de deux mandats successifs xam nga affaire bi dafa diex mais man quand je vois les actes qui sont posés par le président j'ai peur pour le Sénégal tu te rappelles que Diambar il y a une l'administration territoriale a été balayé gars yi changé nañ ko taxaxé ko la police gars yi changé nañ ko parce que demb c'est l'armée et chaque fois que ces actes sont posés des gens au fait des choses des gens qui suivent domaine yoy dañ la nane attention le président il a posé des hommes parce que nit ki li ak li ak li ak li le cirque ak nit ki gendarmerie li mu cirque nit ki li le cirque ak mom marem faisal li le cirque ak nit ki donc man c'est ça qui me fait peur. Et dans la même semaine où on réforme, où on réorganise l'armée, il y a Cheikh Kanté qui est son ministre conseiller qui sort pour dire que le président doit encore présenter sa candidature. Le gouvernement en question qui a été mis en place, on n'a pas eu le temps d'en discuter.
Tout à fait.
Mais Diamba, qui est revenu?
Tous les bannis.
Ouais, ah ben des voilà. Gens bannis. Yo xamné dañ ni ay product 29 milliards ni pour des malgestions, des gens qui ont été épinglés par l'OFNAC, ñom le jëli andi len ak ay saga kat imposé len nit ni.
Ouais.
Ce que vous dites c'est normal. Koura Macky. C'est l'aboutissement de la politique de mépris que Macky Sall a pour les Sénégalais. Mais en quoi une personne bo xamné ne doit son nom à cas des injures, des insultes, ni djol ko yobou ko Assemblée nationale mu ñew taxaw di ñu mystifier Diamba. Donc ça veut dire que tay on tombe, c'est-à-dire que ñi nga xamné on est dans un état voyou quoi, on est dans un état voyou et je pèse bien mes mots Diamba. Quand je dis qu'on est dans un état voyou, ça veut dire l'état voyou moy état bi nga xamné dañuy am police am milice. Président suñu ñew parifi 2017-2018, ils ont fait des bras forts. Ils ont cassé de l'opposant, d'or de l'opposant. Au Sénégal, qui n'y met tout le monde? Djamba, on a suivi le Cheikh Omar Diagne.
Oui.
On a Khouroum Khak. On a Papito Kara. Pour juste avoir fait de satire. Alors que c'est notre président qui avait quitté le Sénégal. Djol suñu kérosène, nous, donc pour Charlie. Pour la liberté de l'expression. Ousmane Diagne, lan la def dafa partager un document rétane mu ngi ci kasso bi Khouroum Khak anamu mu ngi ci kasso bi Nadine anamu mu ngi ci kasso bi. On nous parle de force spéciale Jambar yow jité nga grève man jité na grève ñun yag nañu défar ay ciox jël ay porte dugal ko ci bouteille wut suñu ay mèche def dind pétrole pour que suñu alkati sané lacrymogène ñu mën len ko sanni pour ñu tarder. Donc cette farce est spéciale. Moi, je dis la farce est spéciale, il faut qu'on arrête Diamba. Parce que bataille dit, dès qu'on n'a pas japonais du bâton de dynamique, dès qu'on n'a pas japonais Kalashnikov, dès qu'on n'a pas japonais FAMAS, ou japonais Lenin, pour arrêter des voitures. Effectivement, ce sont des voitures assassines. Ce sont des voitures qui tuent.
Non, mais
en plus,
ce qui est pire, c'est que le président Kérok, qui Gamougui, n'est pas Sénégal, de coup de démocratie, il n'est pas le plus fait.
Non, Diamba, xolal, xam nga son ministre a reçu à l'ultime qui lui a remis la liste de prisonniers politiques.
J'ai vu.
Même que lui, effectivement, il est disposé à faire quelque chose. Donc, ça veut dire que lolu rek, moy nangou né Sénégal tay am nañu des réfugiés politiques yo xamné. Xam li nga wax ci santé bi, Diamba. Li nga wax ci santé bi, est-ce que toi, tu trouves normal que le Sénégal ne dispose que de 6 lits de grands brûlés?
Ah ouais.
6 lits, je te dis. On en avait déjà parlé, Je m'étais catastrophé. Tu vois, j'étais estomaqué quand ça, je l'ai su. C'est Taïdi Diambar, Kholal, l'usine Binek Niebebi explosée. Chaque jour, on est à 7 mois. Pourquoi? Parce que le Sénégal ne dispose que de 6 chambres. Disposant que de 6 chambres, quelqu'un qui n'a pas eu le gel en charge. Donc so amna fo xamne so fa tolo nama yalla bal de rek ngay def quoi
néna len
Diambar,
néna len tant que ces présidents ministres directeurs sénégalais viendront se soigner en France nos hôpitaux seront toujours dans des états lamentables koku mom bu len bon rek ngi dugal ko
suñu Diambar xam nga gi Mari Sagna arrêté nañ ko fi parce que bi tanorm DFCD mu bind postom
bo bind.
Tay di qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le parti socialiste dafa amone réunion, mais réunion bi dañ ko reculer parce que Amine Tambe Ngandiay dafa ñew France pour fadio ci.
D'ailleurs ñu ngi koy nuyu au passage diko ñaanal mu wër.
Wa mais xam nga Yalla ko Yalla may wër, mais Yalla na am ngoru bayyi suñu pep bayyi parti socialiste. Et que parti socialiste Serigne Mbaye Thiam momu nga xamné musul gagner bureau de vote. Il ne doit son salut que xawma ñaan la am, xawma wërteug la am, xawma lan la am président bi diko fal su fekke ne mom defé na né mën na jité Sénégal day nax nit ñi wa parti socialiste authentique et réel ñu ngi ñew nangu ci parti bi nangu ci appareil bi pour aller aux élections à venir man dal Diamba yalla nañu yalla dimbali yalla jappali ñu yalla may Macky Sall raison garder que mu dello ci wat xélam bayyi suñu dëkk bi ci jamm ak salam parce que Sénégal fi mu jëm ci ngouta la jëm ci ngouta la jëm ci ngouta la jëm te yalla nañ ci yalla mussal.
Amin amin. Jerejef, merci Seigne Medoun, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Medoun. Et pour compléter sur cette histoire donc de la promenade du président de la République, moi je pense, Richard, que le président de la République, comme je dis, il ne lui reste que 14 mois et j'espère qu'il va partir. Parce que nous avons été un des premiers à parler ici de troisième mandat. Oui, on l'a dit, on l'a assumé. Et je me rappelle, c'est quand j'étais en train d'interviewer l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Voilà. Mais aujourd'hui, je me dis que Macky Sall est en train quand même de regarder le pays. Il vit dans le pays quand même. Même si il sait que certaines choses n'existent pas. Parce qu'Abdou Diouf, à l'époque, disait que quand on l'a battu en 2000, qu'il ne savait pas qu'il y avait des petits sachets, Richard, de café qu'on vendait à 10 centimes ou 5 centimes. Voilà, on vendait un sucre, deux sucres. Il a dit qu'il ne savait jamais ça. C'est l'état de pauvreté des Sénégalais qui faisait qu'on était obligé de vendre, mais plus que des détails. Voilà, voilà, c'était hallucinant. Mais Macky Sall, quand même. Il est jeune, il sort un peu, il sait ce qui se passe. Il sait que les gens, ils souffrent. Il regarde quand même l'état du pays. Même s'il fait des choses, moi je le dis, même s'il fait des choses. Parce qu'aujourd'hui, Richard, on est arrivé à un moment où Macky Sall, même si aujourd'hui, voilà, il va nous construire une usine de fabrication de voitures, de pétrole, de stations d'essence, de tout ce que tu veux, les Sénégalais ne le verront pas du tout. C'est fini. Les Sénégalais n'en veulent plus de Macky Sall. Parce que comme j'ai dit, il a fait plein de bonnes choses, on peut le dire. Mais si je vais le lisser, les Sénégalais vont te dire, ah bon, ah ouais, ouais, ouais. Mais à côté, il y a tellement d'impunité, tellement de mauvaises choses qu'il ne peut plus rien faire. Donc, monsieur le Président, Daniel Okoye-Nyandrek, avec les 14 mois qui vous restent, essayez de tout faire pour sortir avec les honneurs. Essayez de sortir avec les honneurs. Parce que moi, je ne crois aucunement à cette promenade que ça va changer des choses ou ça peut changer des choses. Non. Et pourquoi je vous le dis? Mais Medoun, tu l'as rappelé. Le président de la République, dans son nouveau gouvernement de combat, attends, Richard, il a été battu à l'élection municipale. Il a été battu à l'élection législative. Il dégringole à chaque élection. Tu passes de 125 députés à 83 députés ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il va falloir lire les choses. Ce ne sont pas des nominations, ce sont des élections. Qui vote, c'est le peuple. Et si le peuple vote pour les gens qui s'opposent à vous, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et si vous voulez, si vous avez voulu arrêter un opposant, qui est leader de l'opposition, et que tout le peuple est sorti jusqu'à ce qu'il y ait 14 morts, c'est que, monsieur le président, les gens, ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment penser à sortir par la grande porte. Parce que moi, je ne crois aucunement que tout ce qu'il fait là, ces sortes de promenades, comme ça, ça va servir à quelque chose. Regardez le gouvernement qu'il nous a amené. Un gouvernement soi-disant de combat. Tu nous ramènes un premier ministre que tu avais viré. Tu nous ramènes des ministres que tu avais virés. Et en plus qu'ils puisaient, ils ont des casseroles. Et tout ce que tu as été viré en tant que président de conseil d'administration, tout ce que tu as été viré en tant que directeur de société, tu les recycles dans différents endroits. Donc, monsieur le président, vous n'avez absolument rien compris. Les gens n'en veulent plus de ces personnes-là. Ils n'en veulent plus de leur manière de faire, de votre manière de faire, de votre projet de gouvernement. Donc, soit vous renversez la table, vous osez, vous changez tout. Vous amenez des gens qui sont prêts à travailler, même pour 10 mois pour le pays. Mais qu'est-ce que vous préférez? Des moutons de Panurge. Qu'est-ce que vous préférez? Des gens qui ont volé dans la caisse de l'État. Parce que quand ils volent, eh ben ils sont obligés d'être des moutons de Panurge parce qu'ils n'osent pas vous dépasser ni par la droite, ni par la gauche, comme le disait Ablaye Wade. Donc aujourd'hui, Macky Sall, je pense que les carottes sont cuites et bien cuites Parce que si vous sortez, vous promenez, et au sortir de cette promenade, vous changez le Premier ministre, vous mettez, je ne sais pas moi, un inconnu qui vient de je ne sais pas où, vous changez le ministre de l'Intérieur, vous changez le ministre de la Justice, vous changez tous ces ministres-là, vous amenez du sang neuf, des gens qui ne sont pas que des politiciens. Mais je vous verrai que, monsieur le Président, les gens allaient se battre comme peut-être ils ont fait un peu au Brésil avec Lula pour dire « il faut revenir ». En plus, vous êtes jeune, il n'y a aucun problème. Si vous quittez le pouvoir avec les honneurs, on peut, monsieur le Président, vous ressolliciter pour que vous reveniez être président de la République. C'est possible, ça se fait. Mais bon, Macky Sall, soit il n'écoute pas ses conseillers, soit il est très très mal conseillé. Très très mal conseillé. Richard, il faudrait qu'on postule pour aller conseiller le président de la République, Richard. Quand même, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Et pourtant, on n'a pas des diplômes de journaliste, hein. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Et je voudrais finir un peu, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, sur justement l'ancienne première ministre aussi, Mimi Touré. Alors là, cette dame est en train de m'énerver au plus haut point. Mimi Touré, vous êtes en train d'énerver les Sénégalais même, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Richard, cette ancienne première ministre, veut faire une proposition de loi pour combattre la gestion familiale de la République. Mais les gens qui m'écoutent vont dire, mais Lamine, il est fou. C'est une bonne chose. Mais bien sûr, c'est une bonne chose. Moi, j'applaudis cette ancienne première ministre. Mais je l'aurais applaudi de toutes mes mains, de tous mes pieds, de tous mes orteils, si ça émanait, si elle le faisait quand elle était à côté du président de la République. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président de la République vous a viré que vous voulez mettre en place une loi personnelle, parce que c'est une loi personnelle. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Il ne faudrait pas que le président nomme ses frères, sa famille, son neveu, son cousin. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Il faut mettre cette loi. Mais la prochaine fois, monsieur madame le Premier ministre. Mais vous étiez où d'ailleurs? Quand le président de la République a nommé son frère président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de consignation. Vous étiez où, madame la Première ministre? Vous n'étiez pas très, très, très proche au président de la République? Vous étiez où, madame la Première ministre, quand le président de la République a nommé son beau-frère président du Covid en lui octroyant des milliards et des milliards pour acheter du riz, de l'huile, des choses comme ça? Et en plus, le beau-frère, il a dit, je n'ai pas de compte à rendre. Donc, à un moment donné, il faut être juste, quoi. Le président Macky Sall, même aujourd'hui, s'il est président de la République, c'est en partie à cause ou grâce à l'ancien président Abdoulaye Wade, qui avait promulgué la fameuse loi Sadengaï, je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que le président Macky Sall, à l'époque président de l'Assemblée nationale, a osé convoquer le fils du président de la République pour qu'il rende compte. Et le président lui a dit, comme c'est comme ça, tu vas dégager de l'Assemblée nationale. Et lui, il n'a pas voulu. Et donc, du coup, ils ont introduit une loi pour diminuer le mandat de 5 à 1 an pour que le président Macky Sall dégage de l'Assemblée nationale. Et rebolote. Khalifa Sall, aujourd'hui, s'il était avec le président Macky Sall, jamais il serait en prison et jamais il serait déchu de ses postes de député ou maire de Dakar. Oui, Richard, j'ai eu la possibilité d'être avec lui en prison. Donc, à un moment donné, on sait ce qui se passe au Sénégal. Et il faudrait que ces générations de politiciens arrêtent de prendre les Sénégalais pour des bananes. Nous ne sommes pas des bananes. Respectez ce peuple, s'il vous plaît. Richard me montre le temps. Ouais, dès que je m'énerve, lui, il me montre le temps. Bon, ben écoutez, c'est la fin de l'émission. Peut-être, oui, on a notre ami Kadhafi Junior, donc des îles Comores, qui est là. Et d'ailleurs, avant, je ne sais pas de quoi tu as parlé, mais j'ai vu qu'aux Comores, il y a des problèmes là, en Béni, là. Azali aussi, il commence à faire du bordel, là, le président, non?
Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Donc, oui, la politique... ben ça, oui, Azali c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est là pour tuer mais pas pour gouverner, hein. Donc on va mettre à côté cette parenthèse de politique. On va parler rapidement parce qu'il reste quelques minutes, quelques secondes pour pour souhaiter une très très bonne saison aux Sénégalais passionnés de foot, car là-bas du côté Sénégal démarre cette semaine le championnat de football première division la mine de première division et on souhaite un très bon championnat et aussi que les arbitres soient à la hauteur des événements avec quelques affiches rapidement pour signaler que cette première journée, il y aura un match phare entre la SP Kine contre Génération Foot et aussi Djaraf contre Sonacos. Casasport, le champion du Sénégal en titre, reçoit à domicile Saint-Pès et Sélance. Le champion sénégalais éliminé de la Coupe de la Ligue africaine des champions va tenter de conserver pour son titre obtenu l'année dernière. Donc, Lamine, pour vous signaler qu'en basket, le championnat va se jouer entre Dakar, le Duc, contre l'AS Douane. Et on termine, Lamine, pour signaler qu'un championnat d'Allemagne, le Bayern Munich de Sadio Mané, accueille demain Fribourg. Donc, Sadio Mané, avec le Bayern, donc, se promène. En championnat et attention Fribourg qui a battu Nantes en Liga Europa, attention à cette équipe de Fribourg. Donc Lamine, pour vous signaler que demain il y aura le Classico PSG
Olympique de Marseille.
Eh oui,
j'espère que vous n'allez pas prendre une valise, hein.
Donc, toi, tu crois qu'on va prendre une valise là-bas à Paris? Moi, l'OM. Attention, l'OM se réveille. Ils sont en Ligue des Champions. Mais peut-être que. Enfin, on souhaite les Marseillais gagnent la mine. Donc, voilà la mine.
Bah, écoute, c'est toujours bien de rêver. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis Marseillais et on peut gagner.
Oui, on va gagner.
Mais ne rentre pas avec une valise. Hein. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Kadhafi. Merci. Ouais. Et Richard, moi, à chaque fois que Kadhafi, je lui donne la parole, je crois qu'il va me parler des îles Comores. Mais c'est un Comorien qui parle que du Sénégal. Ah ouais, c'est le plus sénégalais des Comoriens. Bon, mais écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, donc, pour la fin, Richard, tu nous fais une dédicace pour monsieur Alpha Boyan, tonton Alpha Boyan, notre gendarme, grand Diaga Diallo, dédicace, tonton cher Bounen, mon oncle, sans oublier Fatou Diawara, Aix-en-Provence, mais aussi Papi Samba Sissoko d'Aix-en-Provence. Oui, le démissionnaire de la paire, il a démissionné de la paire. Hein. Momat Ndiaye aussi, il a démissionné de la paire. Et oui, les intellectuels d'Aix-en-Provence sont en train de quitter le président de la République. J'espère que vous allez suivre le reste parce que le président, c'est fini et bien fini comme l'émission est finie, Richard. À samedi prochain. Ciao.